On reprend le verset du départ. Allah dit, « Dis à mes serviteurs d'employer dans leurs propos les mots les plus aimables, de peur que Satan ne sème entre eux la discorde, car Satan est l'ennemi mortel de l'homme. » Ça, c'est la première interprétation du verset. C'est que Dieu nous demande, nous, les croyants, de choisir les meilleurs propos entre nous. Mais il y a une deuxième manière de comprendre le verset. « Dis à mes serviteurs, croyants, de tenir les meilleurs propos avec ceux qui ne sont pas croyants. » C'est-à-dire que le public visé, ce sont les non-croyants, les non-musulmans. Et c'est peut-être la meilleure interprétation du verset, car le verset suivant nous dit « Votre Seigneur vous connaît mieux que quiconque. Il vous fera miséricorde s'il veut, ou s'il veut, il vous punira. Nous ne t'avons pas envoyé aux prophètes comme responsables de leur sort. » C'est-à-dire, Allah dit aux prophètes, dit aux croyants, de ne tenir que les meilleurs propos vis-à-vis des non-musulmans. Quels sont ces meilleurs propos? C'est le verset suivant. Dites-leur, c'est votre Seigneur qui connaît votre sort. On ne sait pas si vous allez aller au paradis ou en enfer. On ne peut pas vous juger tant que vous êtes vivant. Si Dieu le veut, il vous fera miséricorde et vous serez parmi les gens sauvés. Et si Dieu en décide autrement, alors vous serez parmi les gens damnés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu et juger les gens, qu'ils soient croyants, pécheurs ou qu'ils soient non-musulmans. C'est impossible. Et si quelqu'un se permet de condamner une personne en disant « celle-ci, elle va en enfer », c'est un des plus grands péchés, parce qu'il a pris la place de Dieu. Il s'est cru pour Dieu. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Abu Huraira nous dit « Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rapporte que deux hommes faisant partie des Banu Israël, le peuple hébreu avant l'islam. Deux hommes étaient frères, l'un d'eux commettait des péchés, tandis que l'autre s'adonnait à l'adoration. Ce dernier, en s'apercevant que son frère commettait toujours des péchés, il lui a dit « Cesse !» Et le pécheur va lui répondre « Laisse-moi, c'est une affaire entre moi et Dieu. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour me surveiller et me condamner ?» Et voilà que son frère lui dit « Je jure par Dieu qu'il ne te pardonnera jamais et tu n'entreras jamais au paradis. » Après leur mort, le Seigneur des mondes va les réunir. Il dira à l'homme pieux « Savais-tu d'avance ma décision ?» Ou dans une variante « Pouvais-tu faire ce que je le pourrais moi-même » C'est-à-dire faire entrer les gens au paradis ou en enfer. C'est-à-dire guider la personne ou pas, puisque la personne est libre, finalement. Puis, il va s'adresser au coupable en disant aux anges, en disant à la personne qui faisait des péchés sur terre, « Entre dans le paradis, entre au paradis par ma clémence et ma miséricorde. Tu faisais des péchés sur terre, mais aujourd'hui je décide, par ma miséricorde, de te pardonner. » Et en s'adressant à l'autre, « Emportez-le en enfer. » C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on aurait pu croire. La personne qui était en apparence pieuse a fini par être punie. Parce qu'il avait un vice dans son cœur, c'est qu'il se sentait supérieur et qu'il se permettait de condamner les autres. Quant au pécheur, il avait une qualité dans son cœur, c'est qu'il savait qu'il avait un Seigneur qui pouvait lui pardonner. Et il a dit à son frère, c'est une affaire entre moi et Dieu, et Dieu lui a pardonné. Autrement dit, on ne peut jamais condamner une personne qui est encore en vie. Au contraire, on doit lui dire les meilleurs propos, en lui donnant de l'espoir. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de toi. Dieu peut te pardonner, Dieu peut te punir, je n'en sais rien. Et ici, Dieu a commencé par le pardon, et il a parlé ensuite de la punition, en disant que, sûrement, Dieu va faire miséricorde aux personnes. Vous savez, les personnes qui nous entourent et qui ne sont pas musulmanes, On se pose souvent la question, sont-ils parmi les gens du paradis ou les gens de l'enfer? Tant qu'ils sont vivants, on ne peut pas répondre à la question. Après leur mort, Dieu les jugera. Dieu les jugera et Dieu sera juste. Si la personne a été convaincue que l'islam est la vérité, parce que le message lui est venu, une personne lui a exposé l'islam avec des arguments convaincants, et que cette personne a été convaincue que l'islam est la vérité, mais il l'a rejeté, ça n'intéresse pas, alors il rendra des comptes à Dieu et il sera sûrement puni. Quant à la personne qui n'a pas eu la chance d'entendre parler de l'islam, pas l'islam qu'on entend à travers les médias, l'islam authentique, c'est-à-dire celui que l'on vit nous, et non pas l'islam des médias. Si la personne n'a pas eu cette chance et qu'elle a été au contraire par les gens qui l'entourent ou par le discours médiatique, elle a été hermétique au message de l'islam, ou bien elle n'a pas eu la chance parce qu'elle vivait dans une autre contrée, ou parce qu'elle a eu différentes expériences dans la vie qui l'ont empêchée d'écouter le message de l'islam, alors cette personne ne sera pas condamnée. Parce que Dieu nous dit qu'il ne punit une personne que si elle a reçu le message, qu'elle l'a compris et qu'elle l'a rejeté. Vous savez, les gens à l'époque du prophète, qui ne sont pas morts musulmans, ils ont eu le message de l'islam à travers la bouche du prophète. Et le prophète était un modèle. On ne pouvait pas l'accuser de mensonge. Donc, celui qui parlait de l'islam était crédible. Aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui parlent de l'islam sont crédibles? Peut-être pas. Deuxièmement, ce qu'ils avaient à l'époque du prophète et qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'à l'époque du prophète, il y avait des miracles. Ils ont eu des preuves convaincantes qu'on ne peut pas rejeter. Qui aujourd'hui peut prétendre détenir un miracle? On n'a pas ces miracles. Donc peut-être que les personnes qui sont en face de nous, qui vivent à nos côtés, n'ont pas eu une preuve convaincante. Et de là, vous comprendrez que nous avons une grande responsabilité de présenter le message de l'islam comme il est, de manière convaincante. Et cela ne sera possible que si nous ne condamnons personne et que nous avons un cœur ouvert et que nous avons de la miséricorde. Et deuxièmement, si nous faisons l'effort d'aller vers eux. Aujourd'hui, vous savez que quand on parle de l'islam, ce qui nous vient en tête ou ce qui vient dans la tête de nos concitoyens, c'est les décapitations, n'est-ce pas? Des journalistes. C'est la délinquance. C'est le terrorisme. Ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Le jour de la résurrection, vous savez ce que fera Dieu de ces gens qui sont morts sans avoir entendu parler de l'islam ou qui n'étaient pas au courant de la réalité de l'islam? Allah va les rassembler. Et il va leur dire, vous allez tous en enfer. Et là, ces gens vont se diviser en deux groupes. Certains vont obéir et d'autres vont se rebeller en disant, ô Seigneur, pourquoi tu nous condamnes au feu de l'enfer alors qu'on n'a pas reçu le message? On n'était pas au courant. On ne savait pas que c'était la vérité. On ne savait pas qu'aujourd'hui on se tiendrait devant toi. C'est injuste. Et là, Dieu dira, vous qui m'avez obéi, allez au paradis. Et vous qui m'avez désobéi, si vous m'avez désobéi alors que je suis en face de vous, alors vous m'auriez désobéi si vous étiez sur terre. Je vous ai demandé quelque chose, vous l'avez rejeté, vous auriez fait la même chose sur terre, donc vous allez en enfer et les autres vous allez au paradis. En tout cas, Dieu sera juste. Dieu sera juste. Tout ça, ça nous renvoie vers notre grande responsabilité. Avons-nous fait l'effort de transmettre le message de l'islam au quotidien, par notre bon comportement, à travers la presse, à travers différentes actions? Est-ce qu'on a fait l'effort? En tout cas, nous à la mosquée de Rem, nous avons pris conscience de cette responsabilité et on essaie, autant que faire se peut, de transmettre le message de l'islam, notamment lors des journées patrimoine. Et ce week-end, comme chaque année, ce sont les journées patrimoine. Les gens vont dans les églises, dans les synagogues, ils vont dans les temples, dans les lieux d'adoration, de culte, et également, on les invite à venir aux mosquées, afin de voir ce qui s'y passe, afin de rencontrer des musulmans qui sont à l'image du prophète et qui pourront parler de l'islam et qui pourront corriger les clichés. Alors ce dimanche, Inch'Allah, on va recevoir à partir de 10h du matin et jusqu'à 18h des non-musulmans qui vont venir ici. On vous demande de venir afin de discuter avec eux, afin d'échanger, de venir avec des gâteaux si vous en avez, si vous pouvez en faire. Car vous savez que c'est dans une ambiance détendue que le message passe. Et on vous demande également, s'il vous plaît, de faire l'effort d'inviter vos voisins. Vous avez tous des voisins non musulmans. Dites-leur, la mosquée de Rem ouvre ses portes. Venez, on vous invite. Venez pour discuter, échanger. Et mieux que ça, on vous a mis du côté homme comme du côté femme des tracts, des flyers. Invitation, journée patrimoine à la mosquée de Rem. Prenez ce que vous pouvez comme tract et mettez-le dans votre rue. Où que vous soyez. Tant qu'on est aux alentours de Rem, Inch'Allah, grâce à vous peut-être, un non-musulman viendra et il changera d'avis. Au meilleur des cas, il ne sera plus hostile à l'islam. Au pire des cas, il ne sera plus hostile à l'islam. Et au meilleur des cas, peut-être, il se convertira comme l'un des gens présents ici qui est de Condé et qui va se convertir juste après la khutba. Et alhamdoulillah, vous avez remarqué que les conversions sont un phénomène de plus en plus grand et ça nous donne de l'espoir. Samedi, on avait deux personnes qui se sont converties, une femme et le soir en privé, un homme et encore aujourd'hui, une nouvelle personne qui a été enveloppée par la miséricorde de Dieu. Il y a une sadaqa qui a été offerte par une famille en souvenir pour leur grand-père qui est décédé. On leur fera des invocations pour eux et pour leur grand-père. Et on va faire aussi des invocations pour une dame âgée, la grand-mère d'un des frères qui nous est cher ici à la mosquée et qui est en fin de vie. On leur fera des invocations. Et enfin, on remercie toutes les personnes qui ont fait des gâteaux, les sœurs qui ont fait des gâteaux pour les journées patrimoine. On ne les oublie pas. Et la rentrée scolaire à la mosquée, l'école arabe, c'est le dimanche 28. Donc selon qu'on soit du matin à 10h ou de l'après-midi à 14h. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arham walidina kama rabbawna sighara. Allahumma arham amwat al-muslimin. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم من تصدق علينا فاقبل صدقته وبارك له في ماله وبارك له في جهده اللهم بارك لنا في مسجدنا اللهم بارك في جمعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك أن تعطي الأجر لمن شارك في النشاط في المسجد اللهم بارك لهم في جهدهم وزد لهم في إيمانهم اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي غير المسلمين إلى الإسلام واجعلنا سببا لهدايتهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة